Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Père Philippe Play, rebonjour.
Bonjour.
Pour cette série consacrée à ce dernier ouvrage qui invite à une méditation sur ce livre de l'Exode avec la lecture donc sur les Hébreux au désert et cette figure de prophète de Moïse. On va se laisser conduire dans cette émission du côté du Sinaï, mais bien avant le Sinaï, que se passe-t-il? Très vite,
il y a des étapes,
le temps est compté.
Qui jalonnent, des étapes où les Hébreux s'arrêtent plus ou moins longtemps et où ils expérimentent, ce sont des épreuves pour eux, la soif, la faim, bref, l'obéissance que vous évoquiez dans les émissions précédentes. La faim, la soif, tout ça doit se ramener à Dieu. Il y a la faim et la soif matérielle, bien sûr, mais qui sont les images de cette quête du bonheur, de plénitude. Et donc, on n'arrive pas au Sinaï avant une formation. Voilà ce que le texte de l'Exode veut nous dire, ni une conduite. C'est ce que la figure de Moïse et son expérience à lui nous dit. Et donc il calme les Hébreux, mais il les calme en même temps en intercédant auprès de Dieu, et il laisse toujours Dieu libre, soit de ne rien donner, soit de donner à profusion. C'est ça l'humilité de Moïse. Il ne prend pas la place de Dieu. Et alors Dieu va, on est dans les deux premières années de l'itinérance des Hébreux au désert, juste avant l'expérience du Sinaï, donc une vision de Dieu à nouveau. Et là, le peuple hébreu est considéré comme un jeune enfant, en quelque sorte. Alors on lui apprend, quand il a soif, à attendre le moment où Dieu lui donnera à boire. Quand il a faim, le moment où Dieu lui donnera à manger. Et à chaque fois, Dieu, dans un désert, d'un rocher, il en fait une source. Complètement inattendue, et en même temps, ça, c'est une fécondité merveilleuse. Et une surprise merveilleuse. Et puis d'un seul coup, là où il n'y a rien à manger, c'est des milliers de cailles qui tombent, qui sont apportées par le vent d'Est et qui tombent dans le camp des Hébreux. Ils n'ont qu'à les ramasser. Ils en ont tellement qu'ils sont dégoûtés par cette viande. Ils finissent par en être dégoûtés après l'avoir tellement réclamé. Et à chaque fois, donc, Dieu leur montre qu'ils doivent avoir confiance en lui. Et alors, c'est seulement par cet apprentissage qu'on arrive à cette grande montagne qu'est le Sinaï. Montagne mystérieuse.
Donc elle vous plaît cette montagne?
Bien sûr, c'est la quête, notre quête à tous. Parce qu'au Sinaï, Dieu va faire vivre ce que Moïse avait vécu tout seul à l'Horeb. Il va le montrer aux Hébreux. Et alors de loin, c'est-à-dire au pied de la montagne. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la gloire de Dieu au sommet, cette nuée, et puis ces éclairs qui la symbolisent. Mais il ne faut pas oublier que la nuée accompagne les Hébreux au désert depuis la sortie d'Égypte. Et elle est lumineuse la nuit, elle est ténèbre, donc visible le jour. Et c'est une sorte de tourbillon, la nuée, c'est mystérieux, c'est la présence de l'Esprit Saint aux côtés du peuple. Et là, cette fois-ci, la nuée, elle se pose sur le sommet. Et là, Moïse va monter. Le texte nous parle de trois ascensions. Et alors, à chaque fois, à la première ascension, ça dure 40 jours, et les Hébreux se disent, oh là, ce Moïse, on ne le retrouvera pas, il nous a fait sortir d'Égypte, mais voilà. On ne sait pas où il est là-haut, dans ses nimbes, dans sa contemplation, il ne s'intéressera plus à nous, il ne reviendra pas, ou il est peut-être mort. Et ils vont voir Aaron en lui disant, tiens, forge-nous un dieu, et Aaron tombe dans le piège. C'est le fameux épisode du veau d'or, et il forge un veau en or.
Donc c'est la tentation.
C'est la tentation, c'est substituer, vous voyez, c'est quand le pouvoir religieux se substitue à Dieu pour donner aux gens quelque chose de palpable. Or, la Sinaï, c'est l'expérience de la transcendance. C'est-à-dire, transcendance, ça veut dire aller au-delà de soi-même, être emporté au-delà de soi-même. Et c'est ça, fondamentalement, l'expérience de la transcendance et de la vraie foi. Et il n'y a pas de vraie foi sans cette expérience-là, sans ce dépassement. du conditionnement humain, de l'égocentrisme humain. Et c'est ça l'expérience de Moïse et des Hébreux. Donc Moïse redescend une première fois, il brise tout ça, il remet les choses en place, il corrige des Hébreux, il remonte une seconde fois, il redescend avec les tables de la loi, et il donne la loi, on va dire le décalogue que Jésus nous rappelle, aux hommes, aux Hébreux. Et puis il y aura une troisième ascension, où là, Moïse demande à Dieu un privilège particulier, il veut le voir face à face. Et c'est le fameux épisode où Dieu lui dit, tu te tiendras dans le creux du rocher, je mettrai ma main sur toi, je passerai, et ensuite j'enlèverai la main et tu me verras de dos, tu me verras en train de passer. C'est ça, voir Dieu face à face. Bon, on ne peut pas voir la substance de Dieu, en tout cas pas en cette vie terrestre. Mais ce qu'on voit, vous voyez, cette idée de passage. On voit Dieu qui passe, un Dieu dynamique, un Dieu qui nous met toujours sur un chemin. Puisque lui est en marche, nous aussi, nous devons toujours être en marche. Et un Dieu qu'on peut voir quand même, d'une certaine façon, même si c'est de dos. Et Moïse redescend, et il est complètement transformé. Il ne s'en aperçoit pas, il ne sait pas regarder, lui, il est dans l'humilité. Mais d'un seul coup, les Hébreux sont effrayés quand ils le voient descendre, parce que son visage est devenu lumineux, il est devenu radieux. On nous parle alors à ce moment-là que Moïse met un voile sur son visage pour pas faire peur aux Hébreux. Et il va garder jusqu'à la fin de sa vie ce voile, parce qu'il gardera toute la fin de sa vie cette lumière. On peut dire qu'une âme qui a fait l'expérience de la transcendance est à jamais habitée par cette lumière. Et cette lumière, c'est Dieu. Et c'est le texte de l'Exode nous invite à faire la même expérience que Moïse. Le peuple hébreu n'a pas compris ça à ce moment-là, donc ils ont accueilli le décalogue, bien sûr, ils ont gardé Moïse comme guide, mais ils ont eu peur d'entrer en terre promise, c'est-à-dire dans la maturité de la foi. Alors il a fallu 38 ans de plus pour faire 40 ans au total, avant que leur apprentissage ne s'achève.
Un symbole fort, parce que ces 40 ans reviennent régulièrement.
Ah oui, les 40 ans, c'est le temps de Jésus au désert déjà, et ça revient souvent. C'est le temps de la plénitude, vous voyez, une maturité, comme pour les 40 ans pour Moïse, le découpage de sa vie. Et vraiment, ça nous montre aussi qu'il y a deux possibilités. On peut entrer en terre promise au bout de 2 ans, si vraiment on est obéissant, si vraiment on a le désir de faire cette expérience du monde transcendant, et les saints ont fait cette expérience en 2 ans, symbolique, rapide, quoi. Ou bien on a 40 ans, toute une vie, quoi, qui nous mène finalement à la maturité, si nous savons marcher jour après jour dans la confiance,
et
l'abandon.
Au fond, et obéir aussi dans l'humilité.
Et l'obéissance.
C'est ce qui revient aussi dans ce beau parcours aussi du prophète Moïse, dans cette obéissance et humilité. Merci pour tout ce parcours. Je rappelle que ce livre sort très prochainement, dès la semaine prochaine, Les Hébreux déserts, paru aux éditions Salvatore. Et nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, demain, pour nous quittons ce prophète Moïse et le livre de l'Exode, pour nous tourner avec vous, et vous nous en direz un peu plus, vers une autre figure. Une sainte passionniste, sainte Gemma Galgani. À demain, Père.
À demain.